Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Internet. Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire qui a eu lieu en 2009, mais ça semble vraiment comme être à la mode ces temps-ci chez les youtubeurs. En fait, moi, j'ai comme pris des notes, ça fait environ un mois, là, c'était avant mon mariage, et après j'ai vu comme j'ai vu un podcasteur en parler et j'ai vu une autre youtubeuse américaine en parler. Donc on dirait que tout le monde découvre cette histoire-là en ce moment, mais je veux vraiment vous la raconter parce qu'elle est assez choquante. Et très triste, mais ça vaut la peine qu'on partage cette histoire, donc restez là. Vous écoutez le podcast Over and Out. Le 16 septembre 2009, une jeune femme de 24 ans se stationne dans le stationnement du restaurant Jeffrey's qui est situé à Malibu, en Californie. Le valet sort du restaurant, il est allé chercher quelque chose, et là, il voit une nouvelle voiture, une Honda Civic. Il s'approche de la voiture et là, découvre que le client n'est pas à l'intérieur de l'auto. Donc, il se demande un peu, hein, c'est à qui cette auto-là? Il regarde sa propre voiture. Normalement, quand les soirées sont assez tranquilles au restaurant, il va attendre dans son auto les clients. Il regarde dans sa voiture et il voit une jeune femme. C'est une jeune femme noire très très belle qui vient juste d'arriver. Et là, le valet, très gentil, super patient, il demande à la femme, genre, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es dans ma voiture? Et là, elle répond, c'est subliminal, hein? Ça n'a pas vraiment de sens ce qu'elle dit. Puis, il comprend pas, il se demande qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Et ensuite, la jeune femme murmure, c'est pour venger la mort de Michael Jackson. Et bon, ça faisait pas longtemps que Michael Jackson était décédé, là on parlait déjà de théorie du complot, donc on pense que c'est pour ça que cette jeune femme a dit cette sorte de déclaration-là, parce que tout le monde parlait de la mort de Michael Jackson. La jeune femme s'appelle Maitrice Richardson. Elle donne les clés au valet, les clés de sa voiture, et ensuite elle demande au valet si Vanessa est arrivée, comme si le valet connaissait Vanessa. Maitrice entre dans le restaurant et elle dit au valet de garder l'œil ouvert si jamais il voit une jeune femme au bras tatoué, donc ça devait être Vanessa. Et elle entre dans le restaurant pour aller réserver une table. Et le valet, bon, il se dit, bon, c'est une drôle de fille, peut-être qu'elle a fumé un peu de pot, mais bon, pas de problème. Donc, je vais vous parler un peu de cette jeune femme qui est super étrange. Elle s'appelle Maitrice Richardson et elle a 24 ans. Elle a un baccalauréat en psychologie, c'est une femme assez éduquée et c'était la meilleure de sa promotion, là. Elle était dans le Dean's List, là. En tout cas, elle était dans les meilleurs étudiants de sa génération. Elle a vécu toute sa vie en Californie, elle est très très belle, donc pour payer ses études, elle a travaillé comme mannequin. Elle a même déjà été invitée dans la maison Play et là, présentement, elle danse comme danseuse à gogo, qui n'est pas une danseuse nue, une danseuse à gogo dans des bars homosexuels. Pour les femmes. Elle a été en couple pendant 2 ans avec une jeune femme du nom de Tessa Moon, mais ils viennent juste de se laisser. Et elle essaie présentement de sortir avec une autre jeune femme du nom de Vanessa, mais on va en parler un petit peu plus tard. Maitrice entre dans le restaurant, elle est seule. Elle porte des jeans et un t-shirt de Bob Marley par-dessus un chandail à manches longues. Elle se fait assigner une table et elle se commande un cocktail et un steak, donc un Ocean Breeze et un Kobe Steak de Kobe Beef, là. Le valet prévient quand même les serveurs que la jeune femme qui vient d'entrer est assez étrange. Elle fait sa commande au serveur et ensuite, elle voit une table de 7. de cette personne qui sont en train de parler, il semble s'amuser, est vraiment étrange. Maitrice se lève et va s'asseoir avec les sept personnes qu'elle ne connaissait pas. Elle n'est même pas invitée à la table, elle fait juste se lever puis aller s'asseoir avec des inconnus. Et la table de sept sont tous vraiment, vraiment gentils avec elle. Ils voient qu'elle est un peu étrange. Parce que moi, si une inconnue venait s'asseoir avec moi au restaurant, je serais genre, qu'est-ce que tu fais? Bon, peut-être que je suis pas aussi compréhensive, mais bon. Les gens l'ont vraiment acceptée et elle est très incohérente et commence à parler comme d'astrologie et des trucs comme ça. Quand sa commande arrive, elle va se rasseoir à sa table seule, elle mange son souper et ensuite va se rasseoir avec le groupe de sept. Pourtant, elle a dit au valet que Vanessa était supposée venir la rejoindre, mais là, elle commande sans son amie, en tout cas. Et là, elle commence à dire des choses assez insensées. Elle dit qu'elle planifie partir à Hawaï et elle dit à ses nouveaux amis de la table de 7, genre, quand je vais revenir, je vais vous contacter puis on sortira ensemble. Quand tout le monde quitte le restaurant, Maitrice se lève aussi pour quitter, mais le manager du restaurant l'intercepte pour lui dire, genre, comment planifies-tu payer ta facture de 89$? Ce qui est assez coûteux, hein? Quand même un steak et un cocktail, mais c'était un restaurant assez chic. Et là, Maitrice dit « Ah, la table de 7 a déjà payé pour moi, il n'y a pas de problème. » Le manager dit « Non, non, là, il n'y a personne qui a payé pour toi, tu vas devoir payer ta facture, s'il te plaît. » Et là, Maitrice a dit comme « I am busted », ce qui veut dire comme « je me suis fait attraper, je me suis fait prendre. » Et finalement, elle dit au manager « Qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai pas d'argent sur moi. » C'est pas très clair si elle n'avait pas d'argent sur sa carte ou si elle n'avait pas ses cartes avec elle. On n'est pas sûr. Et pendant que le manager y répondait, elle regardait comme l'ordinateur du restaurant dans une sorte de transe. Elle était vraiment pas toute là. Ensuite, Maitrice a dit quelque chose du genre « Je viens de la planète Mars. » Et je vais pouvoir payer ma facture comme par nature, avec du sexe. Comme je dis, elle est assez incohérente, ça n'a pas vraiment de sens pour nous. Elle vide ses poches au complet pour prouver qu'elle n'a pas d'argent. Et là, il y a comme un joint de marijuana qui tombe. Le manager, lui, veut pas vraiment dealer avec ça, ça lui tente pas de se disputer. Bon, il appelle la police pour dire, écoutez, il y a une cliente qui veut pas payer sa facture. Mais aussi, il est assez inquiet parce que tout ce qu'elle disait n'avait pas de sens et il a tout de suite remarqué cette femme-là va pas bien.
Lost Social Station, Deputy Sheriff, how can I help you?
Hi, I'm calling from Joffrey's Restaurant in Malibu.
Yeah.
We have a guest here who is refusing to pay her bill and we think she sounds really crazy. She may be on drugs or something. We are wondering if someone can come by and pick her up.
And is she a white, black, Asian, Hispanic?
She's a young black girl. She's probably in her 20s.
Okay, what's she wearing?
She's wearing a black t-shirt and I think blue jeans.
Is she with anybody else?
No, it's just her.
Donc évidemment, on peut vite constater que Maitrice n'est pas dans son état normal. Peut-être qu'elle a pris beaucoup de drogue, peut-être qu'elle est dans un épisode de maladie mentale, un épisode de manie là, bipolaire, ou elle est saoule, complètement saoule, donc on sait pas, mais c'est assez clair qu'elle n'est pas dans son assiette. En attendant la police, Maitrice placotait avec l'hôtesse et elle parlait comme de tout et de rien, mais encore là, elle divaguait un peu. Elle disait qu'elle regardait la télévision à son travail et Dieu lui avait ordonné de prendre l'après-midi de congé. Et elle disait aussi qu'elle n'avait pas de parents, ils étaient tous les deux morts et c'était son arrière-grand-mère qui l'avait élevée. Son arrière-grand-mère Mildred est encore en vie, elle était assez proche d'elle, mais c'est totalement faux, ses parents sont en vie et elle est très proche de ses parents également. Bon, moins de son père, mais bon, elle connaît très bien ses parents, sa mère s'occupe d'elle et bon. Maitrice a finalement dit à l'hôtesse d'appeler son arrière-grand-mère, Mildred, pour qu'elle lui donne ses numéros de carte de crédit et pour qu'elle puisse payer la facture. Donc, l'hôtesse a appelé Mildred pour lui expliquer un peu la situation. Mildred a dit « Ah, il n'y a pas de problème, je vais donner mes numéros de carte. » Mais finalement, le restaurant ne pouvait pas accepter comme juste des numéros comme ça. Ça leur prenait vraiment la carte physique. Et pauvre Mildred, il a fallu qu'elle reste au téléphone avec l'hôtesse du restaurant jusqu'à 21h en attendant la police pour s'assurer que tout était correct. Justement, à 21h, il y a trois policiers qui se sont rendus sur place. On a Frank Brower, Armando Loureiro et John McKay. Le manager a parlé un petit peu avec eux, mais il était là, écoutez, c'est pas grave, là. On était juste vraiment inquiets parce que Maitrice n'avait pas l'air de bien aller, mais pour la facture, ça va être beau. Même que les employés ont offert de payer la facture de Maitrice. Tu sais, le restaurant était super compréhensif dans cette situation-là. Ils ont appelé la police, mais après, en jasant avec elle, ils ont comme pris pitié de Maitrice Et ben c'est ça, il voulait juste comme s'assurer de sa sécurité, il voulait pas la voir partir dans son auto en conduisant si elle était seule. Bon, fait que vous comprenez que c'était pas pour lui causer des problèmes qu'a appelé la police. L'un des policiers a parlé à Mildred, l'arrière-grand-mère de Maitrice, et ensuite ils ont prêté le téléphone à Maitrice pour qu'elle parle, elle, à son arrière-grand-mère. Et après l'appel avec Maitrice, Mildred a appelé sa petite-fille à elle, qui est la mère de Maitrice. Elle s'appelle Lattice Sutton. Je vais l'appeler Lattice. Les policiers ont fouillé la voiture de Maitrice. C'était le gros bordel. Et ils ont retrouvé le permis de conduire de Maitrice, un peu de marijuana, du pot, comme égrené sur le sol. Là, c'était vraiment rien, là. Et des bouteilles d'alcool à moitié vides. En voyant les bouteilles d'alcool, on a dit « Ah, ok, Maitrice doit être en état d'ébriété. » Ils ont fait faire un test comme en regardant ses yeux, en la faisant marcher comme sur une ligne droite ou quelque chose comme ça. Et non, Maitrice n'était pas en état d'ébriété, tout allait bien. Quand le député Browser a demandé à Maitrice pourquoi elle est allée au Jeffrey's si elle n'avait pas les moyens de payer son souper, et elle a répondu qu'elle avait été comme attirée par les lumières du restaurant. Ok, c'est bon. Et ensuite, il a demandé si elle était sous médication, si elle prenait une forme de médication quelconque. Maitrice a répondu que non. Et ensuite, on lui a demandé si elle avait déjà reçu une évaluation psychologique. Et Maitrice a répondu que non. Donc, les policiers aussi étaient très conscients de l'état mental de Maitrice à ce moment-là. On a remorqué la voiture de Maitrice et les policiers l'ont amenée à la station de police pour possession de marijuana, même si c'était vraiment rien qu'ils ont retrouvé, peut-être le joint dans sa poche, peu importe. C'était la Californie en 2009, là, en ce moment c'est légal, mais à l'époque ça l'était pas, et les policiers ont tout le droit d'arrêter cette jeune femme pour possession de drogue. Ça semble un peu excessif, mais peut-être aussi qu'ils voulaient s'assurer qu'elle était correcte, qu'elle allait pas conduire sa voiture. Ensuite, Lattice, la mère de Maitrice, a appelé la station de police qui est située à environ 25 minutes du restaurant. Elle a appelé parce qu'elle s'inquiétait aussi à cause qu'elle venait de recevoir l'appel de sa grand-mère, Mildred, qui lui a tout expliqué la situation. Et là, Lattice a parlé à un policier et elle a demandé s'il prévoyait garder Maitrice toute la nuit dans une cellule comme en prison. Et la logique de Lattice dans tout ça, c'est qu'elle a dit « Écoutez, si vous prévoyez garder ma fille juste une heure ou deux et ensuite la laisser partir, je vais venir la chercher. Parce que je veux pas que vous la laissiez sortir dans un endroit qu'elle connaît pas. Elle connaît pas vraiment Malibu. Elle a pas sa voiture avec elle. Clairement, elle ne va pas bien. Donc, si vous prévoyez la laisser sortir, ben je m'en viens la chercher tout de suite. Mais si vous me dites que vous allez la garder toute la nuit, je vais venir demain matin. » Parce que, aussi, Lattice avait une autre fille de 10 ans qui était couchée. Fait qu'elle dit, là, il faut que je réveille ma fille pour aller la chercher. Mais si vous m'assurez que vous allez la garder pour la nuit et qu'elle va être en sécurité dans votre station de police, ben, je vais la laisser passer toute la nuit là. Elle a dit aussi, ça va peut-être lui faire réfléchir. C'est bon qu'elle passe une nuit en prison. Mais en même temps, elle voulait pas que sa fille soit en danger si les policiers ne décidaient pas de la garder en prison. Je sais pas si vous me suivez. Le policier lui a assuré qu'elle allait garder Maitrice toute la nuit et qu'il n'y avait vraiment pas de danger, qu'elle n'avait pas à s'en faire. Et là, le même répété, êtes-vous sûr que vous allez la garder toute la nuit? Si vous ne prévoyez pas la garder toute la nuit, dites-le moi tout de suite, je m'en viens la chercher. Je veux pas qu'elle soit laissée seule à elle-même, dans un secteur qu'elle connaît pas, elle a pas d'argent sur elle. Écoutez, dites-le moi, je m'en viens tout de suite si vous avez besoin de moi, mais c'est sûr que c'est plus facile pour moi de ne pas y aller et de pas réveiller ma fille de 10 ans. Le député au téléphone a assuré pour une deuxième fois que Maitrice était bel et bien en sécurité à la station.
Understand my daughter is being brought into the station. Maitrice Richardson, have they made it to the station yet and she's been booked?
Okay, do you know where she's coming from?
It's some restaurant out in Malibu, and I didn't even think to get the name. The manager's
name
is...
The only place we have somebody that's in custody that they just announced on the radio that they're coming up is from Joffrey's in Pacific Highway. It's okay. The only female that's being brought up to the station as we speak. They actually just put it on the radio right before you called.
Okay. I'm her mother.
Oh, okay.
And are you guys going to book her and then release her on her own recognizance tonight? Because it's dark, she doesn't have a car, and I don't want her wandering out. I'm totally just taken aback because this is so out of character for her.
Yeah.
And you'll see when she comes in, she's well-spoken. I think the only way I will come and get her tonight is if you guys are going to release her tonight.
Yeah.
If going to be held in custody for some type of arraignment tomorrow, then I will wait until tomorrow. She definitely has no place, you know, I mean, she's not from that area, and I would hate to wake up to a morning report, lost somewhere with her head chopped off, so I guess I would have to come and get her. Oh, my God.
Yeah, we're in Agoura Hills. The only thing is, at least in the station here, she will be separated, so nobody's going to be with her. So at least that's, you know, the plus thing, so you don't have to worry about her safety.
No, I feel safe with her being in custody. It's being released that I'm worried about. It's crazy out here.
All right, well, then I will more than likely call and touch bases with you guys a little bit later.
She'll call you as soon as she comes in, too.
En arrivant à la station de police, Mike Chase avait le droit de faire un appel, et le seul numéro de téléphone qu'elle connaissait par cœur, c'était son arrière-grand-mère, Mildred, à qui elle avait parlé un petit peu plus tôt. Sur les relevés d'appel, on voit que Mike Chase a appelé Mildred à 4 reprises, mais Mildred, qui était à la maison toute la soirée, elle affirme ne jamais avoir parlé à sa petite fille depuis la station de police. Pourtant, les policiers disent que c'est vraiment bizarre parce qu'on a vu Maitreese en train de parler à quelqu'un au téléphone, mais Mildred a dit non, moi j'ai reçu aucun appel à part au restaurant, après j'ai pas reçu d'appel de ma petite fille. On s'est rendu compte plus tard que le téléphone de la station de police ne fonctionnait pas pour les appels externes, donc si ça se trouve, Maitreese parlait comme un bip, tu sais, à personne. On sait vraiment pas là, à qui elle a parlé, mais on pense pas qu'elle ait parlé à qui que ce soit. Donc, dans l'état mental où se trouvait Maitreese, ça me surprendrait pas qu'elle ait parlé à personne durant comme 3-4 minutes en pensant que c'était son arrière-grand-mère. La mère de Maitreese, elle venait juste d'être rassurée par le policier, est allée se coucher, puis elle a dit « Ça sert à rien que je rappelle à la station de police dans une heure, tu sais, pour m'assurer que ma fille est là. » On m'a assuré deux fois qui allait la garder toute la nuit. Donc, elle a attendu le lendemain à 5h30 du matin pour appeler à la station de police. Et on a informé la pauvre Lattice que Maitreese avait déjà été relâchée il y a de ça plusieurs heures. En fait, depuis minuit et quart, Maitreese avait été relâchée. Alors qu'on avait promis à Lattice qu'on allait la garder pour la nuit. Les policiers savaient très bien que Maitreese était à des kilomètres de sa maison, qu'elle n'avait pas personne qui venait la chercher, qu'elle n'avait pas sa voiture. Donc, ils l'ont relâchée à minuit et quart dans un endroit pas si sécuritaire, honnêtement, en plein milieu de la nuit, une fille dans son état mental, parce que clairement, elle n'allait pas bien, et elle n'avait pas de téléphone, d'argent, de pièce d'identité, ni sa voiture avec elle. Donc, what the fuck? Genre, je comprends pas dans c'est quoi la logique des policiers ici, parce que si le travail des policiers, c'est pas de nous protéger, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? À quoi ils ont pensé? Surtout que Lattice les avait vraiment prévenus que Maitreese ne connaissait personne dans ce secteur-là et ça pouvait être dangereux. Et j'ai lu un peu sur les règles aux États-Unis, les lois. Qu'est-ce que le devoir d'un policier dans une situation comme celle-ci? Donc, quand un policier arrête une personne qui est instable mentalement, il est autorisé à détenir la personne parce qu'on considère qu'elle peut être dangereuse envers elle-même et autrui. Quand le policier voit qu'une personne est instable mentalement, il va la garder sous haute surveillance à la station ou il va l'envoyer dans une évaluation psychologique qui dure 72 heures. Maitreese aurait clairement dû bénéficier de cette surveillance supplémentaire parce que clairement, elle n'allait pas bien, mais ça implique un petit peu plus de paperasse de la part des policiers, donc plus de papiers, de rapports à remplir. En fait, c'est Lou Rayro, le député qui a arrêté Maitreese. À aucun moment, il a mentionné le comportement étrange de Maitreese, ce qui est vraiment bizarre parce que c'était clair pour tout le monde qu'elle n'allait pas bien, mais à aucun moment dans ses rapports de police, il a mentionné qu'elle était dans un état instable. Et il l'a seulement arrêté et chargé pour possession de marijuana. Comme elle n'avait pas de dossier criminel, elle n'avait jamais été arrêtée auparavant. Ils ont décidé de ne pas la garder en prison pour rien et ils l'ont relâchée. Mais c'était un peu dans leur devoir de lui faire passer une évaluation psychologique ou du moins de la garder pour la nuit sous haute surveillance, ce qu'ils n'ont pas fait malgré tout ce que Lattice leur avait dit. Il était maintenant rendu 6h du matin, donc depuis minuit, Maitreese avait quitté la station de police. Elle était seule, mais on n'a aucune idée où elle est allée et avec qui et comment. Donc elle a raccroché vers 5h30, ensuite elle a rappelé à 6h, puis là elle était vraiment inquiète. Là elle a demandé à l'agent au téléphone, ça prend combien de temps pour reporter une personne disparue? Est-ce que je dois attendre 24 heures ou 48 heures? Ici on voit vraiment qu'elle a des fausses croyances parce que, comme je vous dis, c'est c'est plus vrai qu'il faut attendre 24 heures ou 48 heures pour reporter une personne disparue, mais la TIS ne savait pas ça. Clairement, dans cette situation-là, c'était dangereux pour Maitreez d'être seule. Ça pouvait être une situation assez inquiétante, une disparition inquiétante, donc il aurait dû la reporter immédiatement comme disparue. L'agent au téléphone a répondu que normalement, c'était pas recommandé de reporter une personne disparue aussitôt, parce que ça faisait pas si longtemps, là, ça faisait 6 heures. Mais il dit, je connais pas du tout la situation de Maitreez, donc je peux pas tellement vous aider avec ça, mais il dit, attendez encore quelques heures et rappelez-moi si vous avez pas de nouvelles, on va la reporter disparue. Honnêtement, je trouve pas qu'il a été professionnel, il aurait dû la reporter disparue tout de suite, surtout que Latisse pleurait au téléphone et elle disait que sa fille n'allait pas bien, qu'elle était instable mentalement à ce moment-là. Donc il aurait dû prendre une décision et dire, écoutez, on remplit un rapport tout de suite. Environ une demi-heure, une heure plus tard, vers 6h30 du matin, la station a reçu un appel du propriétaire d'un ranch là, ou d'une ferme du nom de Bill Smith qui a dit qu'il avait vu une femme errer sur sa propriété, qui est une propriété privée. Il dit « J'ai vu une femme en train de marcher, elle était très mince et avait un afro noir. » Smith a comme ouvert sa fenêtre puis a dit genre « Est-ce que ça va? » Et la femme a dit « Ah, je fais juste me reposer. » Donc, lui, ça l'a inquiété. Il a tout de suite appelé la police et la station a envoyé des policiers sur les lieux, mais il était trop tard. Maitreez, ben, on pense que c'est elle, était plus là.
Yeah, hi. Hey, this is Smith at Cold Canyon. We had a prowler walking around through the backyard here, but we don't know what the situation was. I don't know if you had a unit in the area. You might do a little drive-by or something. And we just had a strange woman walking through the backyard here. It is a fairly large property, and she was sitting on the steps right in the back of the house here. This is kind of a circular driveway, and the gates were closed, so we don't know where this woman came from. You know, a tall, slim, black woman with afro hair. I said to her, I hollered down, are you all right? And she said, I'm just resting, or something like that.
On a finalement reporté la disparition de Maitreez Richardson, mais le shérif a attendu 2 jours avant de commencer les recherches. C'est énorme, surtout... Comme je le répète beaucoup, mais surtout dans une situation comme celle-ci où Maitreez n'était pas bien psychologiquement.
We don't know the person that's in that booking report. Something happened. What? That's why we're here today. What and where is she? We want her home.
That was Maitreez Richardson's cousin. The 24-year-old woman has been missing since the night of September 17th. That's about 12 days ago when she walked out of a sheriff's station in the middle of the night, 1:30 a.m. No phone, no car. They'd impounded her car, no purse. What I don't understand is that they went to this extreme length of impounding her car because she had this much pot. We know in California there's something called medicinal pot. And I lived there for 18 years. I could tell you that people are all over the place taking medicinal pot. Nobody's impounding their cars.
Well, you know, I have no idea the amount of pot, but obviously...
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
obviously she didn't say it was medicinal pot and they were just looking for some excuse. It's almost like harassment to me.
À la maison de Bill Smith, on a retrouvé des traces de pas qui correspondaient aux chaussures de Maitrice et on pense qu'elle a couru. En tout cas, de la façon qu'étaient ces traces de pas, là, je connais pas ça, mais on a très vite perdu la trace malheureusement. On n'a pas pu savoir exactement dans quelle direction elle est allée. Près de la maison de Bill Smith, il y a comme un gros parc qui s'appelle le Dark Canyon. Et ça aurait vraiment dû être fouillé depuis le début. C'est à côté de la propriété de Bill Smith et c'est comme un canyon, c'est vraiment facile de se perdre. Et c'était genre à 99% sûr que Maitrice s'était perdue dans ce canyon-là. Si elle continuait à marcher, elle allait pas bien, elle savait pas était où, c'est vraiment facile de se perdre. Ils auraient dû fouiller cet endroit-là, mais ils ne l'ont pas fait. Comme Maitrice habitait à Los Angeles, très vite cette affaire est tombée entre les mains du LAPD, donc le département de police de Los Angeles. En fouillant l'auto de Maitrice, on a retrouvé sa carte de débit, son carnet de chèques et il y avait aussi des journaux intimes. Les policiers ont pu lire ces journaux intimes-là et en lisant un peu ce que Maitrice avait écrit, ils ont déterminé que où Maitrice était dans un épisode de bipolarité assez sévère où elle manquait de sommeil. Ça n'a pas été long que les médias aient été mis au courant de la disparition d'une jeune femme qui était sous la responsabilité du shérif. Eux aussi se demandaient comment les policiers ont pu être aussi irresponsables, laisser aller une jeune femme seule au milieu de la nuit, sans argent, sans voiture, ça n'a pas de sens. On se demande qu'est-ce qui a passé par la tête des policiers à ce moment-là. Le 20 septembre 2009, trois jours après la disparition de Maitrice, le lieutenant Scott Chu a envoyé un email à son superviseur, le capitaine Thomas Martin, concernant l'arrestation et la libération de Maitrice Richardson. Donc, on a eu accès à ce email. En fait, je vais vous le lire. Le sujet, c'est j'ai parlé à Lou Rayro, qui est l'agent qui était en charge de Maitrice cette soirée-là. Le policier qui l'a arrêté, dans le fond. En gros, dans le email, le lieutenant Chu disait qu'il venait juste de parler à Lou Rayro. Il dit que la soirée de la disparition, Lou Rayro avait amené Maitrice à la station pour s'assurer qu'elle allait bien. On a dit que quand elle était au restaurant, elle agissait un peu de manière écervelée. C'est pourquoi on l'a amenée à la station, mais on lui a passé des tests pour voir son état d'ébriété et elle n'était pas intoxiquée. Ensuite, on raconte que Lou Rayro sentait quand même que quelque chose n'allait pas bien. Il n'était pas à l'aise de la laisser partir. C'est pourquoi il l'a amenée à la station. Apparemment, il aurait suivi son instinct de policier. Ensuite, il a dit quelque chose de tellement choquant. Le fait que cette jeune femme soit disparue alors qu'il est confirme mes instincts, que j'avais un bon instinct en décidant de l'amener avec moi. Mais il était où ton instinct quand tu l'as laissé sortir à minuit toute seule? Le lieutenant a conclu le email en essayant de se déculpabiliser un petit peu en disant que, bon, il avait amené Maitrice à la station et rendu à la station, ils ont comme vu que c'était une jeune femme super intelligente, bien éduquée, donc il n'y avait aucune raison pour eux de la garder à la station de police toute la nuit. Malgré que le sujet du email dise « J'ai parlé à Lou Rayro », Scott Chu dit qu'il ne se rappelle pas d'avoir écrit à Lou Rayro. Et Lou Rayro dit qu'il ne se rappelle pas d'avoir eu de contact avec Scott Chu. D'ailleurs, on a même nié le fait d'avoir passé un test d'alcoolémie sur Maitrice. Donc là, peu importe, les policiers reviennent clairement sur leurs agissements, ils se remettent en question un petit peu. La famille a demandé à voir l'enregistrement de la caméra de surveillance de la cellule où on a placé Maitrice cette nuit-là. Et ils se sont fait répondre qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance dans cette station de police-là, ou du moins, il n'y avait pas de caméra de surveillance qui pointait vers la cellule. Qui n'a pas vraiment de sens, honnêtement, c'est presque sûr qu'une caméra de surveillance. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, on a finalement montré la vidéo de la caméra de surveillance à la famille de Maitrice. Donc, elle existait cette vidéo-là, ils ont juste menti en disant qu'elle n'existait pas et finalement, après quelques mois, ils ont dit « Ok, on va vous la montrer ». Sur la vidéo, on voit que Maitrice est clairement agitée et un peu en détresse, mais la vidéo a été éditée, donc c'est comme si on voulait cacher quelque chose, donc je sais pas si... Tu sais, à un moment... Ouais, il y a comme un moment qui est coupé de la vidéo, puis on sait pas vraiment pourquoi. Ensuite, encore sur les caméras de surveillance, on voit Maitrice qui sort de la station de police et 2 minutes après, il y a un policier qui sort également après elle. Là, on se demande, OK, ce policier-là, il a dû voir Maitrice, est-ce qu'il lui a parlé? Quand on a demandé c'était qui ce policier-là, le département de la police n'ont pas voulu donner son nom à la famille de Maitrice. Pourquoi pas? Genre, est-ce que t'as quelque chose à cacher? Puis pourquoi on lui pose pas plus de questions à ce policier-là pour savoir s'il a vu la jeune femme cette nuit-là, à sa sortie de la station? Et honnêtement, c'est possible que le responsable de la disparition de Maitrice soit un policier, tu sais, ils sont Il y a des malades mentales partout, là. Ça se peut très bien que ça arrive. Une source confidentielle a réussi à obtenir l'identité du policier. Et quand un journaliste a contacté ce policier-là en question, il a dit qu'il était pas là cette soirée-là et il a raccroché le téléphone. Ce qui, encore là, pourquoi tu mens? Parce qu'on t'a vu sur les caméras de surveillance. Pourquoi tu mens en disant que t'étais pas là cette soirée-là? Qu'est-ce que t'as à cacher? Je comprends qu'on veuille garder son identité secrète, qu'on veuille pas la donner à la famille de Maitreese parce qu'il pourrait vraiment harceler le policier, là. Je comprends. Mais pourquoi tout simplement pas la donner depuis le début et le policier a juste à dire « Non, je l'ai pas vue. Elle était pas là quand je suis sortie. Écoutez, non, j'ai pas reconnu votre fille. Je savais pas dans quel état elle était. » Tu sais, il y a plein de raisons qu'il aurait pu donner. Mais non, juste comme le fait de cacher son identité, on dirait que ça cache de quoi de pire que ce l'est réellement. Mais la famille ici, là, ils ont vraiment le droit de se poser des questions et de remettre en question tout ce qu'on leur dit parce qu'ils se sont fait mentir déjà à deux reprises par les policiers qui leur ont dit qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance, qui était faux, et la soirée de la disparition de Maitreese, ils ont dit « Oui, oui, on va la garder ici, pas de problème, inquiétez-vous pas », puis ils l'ont laissé sortir. Ils ont raison de ne plus faire confiance aux policiers. Avec la disparition de Maitreese, la famille de Maitreese était très inquiète, parce que récemment, il y avait eu plusieurs changements dans la vie de Maitreese. Elle venait juste de faire son coming out, là, de dire qu'elle était lesbienne. Elle a eu une relation sérieuse avec Tessa, mais elle venait juste de se laisser. Elle venait aussi de se faire engager comme danseuse à gogo, ce qui est un autre mode de vie, là, carrément, parce que tu travailles de nuit, tu travailles dans un bar, tu bois beaucoup d'alcool. Bon. Et aussi, à cette époque-là, après sa rupture, elle a rencontré une jeune femme du nom de Vanessa, et Maitreese est vraiment devenue obsédée par Vanessa. Là, c'était pas vraiment sain, là, la relation qu'elle entretenait avec cette jeune femme-là. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'on a remarqué des changements dans le comportement de Maitreese. Elle a commencé à publier plein de citations super tristes sur son MySpace. Et parfois, elle écrivait ça à genre 3-4 heures du matin, donc on voyait qu'elle ne dormait pas bien. Et les jours avant sa disparition, Maitreese avait envoyé des SMS très bizarres à sa mère. Il était vraiment alarmant et incompréhensif, et Latisse lui a répondu « Tu dois me dire ce qui se passe avec toi ». Et Maitreese lui a répondu « J'écris un livre, tu m'as dit que je pouvais devenir tout ce que je voulais. J'essaie de trouver mon propre chemin pour parler à Michelle Obama ». Pour qu'elle demande au président de créer un emploi pour moi dans la Maison-Blanche. Et là, sa mère lui a répondu, genre, appelle-moi tout de suite. Genre, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, c'était clair que Maitreese était assez désillusionnée. Et Maitreese lui a répondu, je sens de la joie, maman, c'est pas tout le monde qui doit mourir pour vivre. J'ai entendu que dans la Bible, Jésus meurt pour qu'on puisse vivre éternellement. Maintenant, je dois prouver que c'est illogique. Donc, c'est fou comment c'est vraiment un épisode de manie assez évident. Parce qu'elle a comme des idées de grandeur, là, elle veut travailler à la Maison-Blanche. Et c'est comme on dit, textbook, là. Tu sais, c'est sûr que c'est un épisode de maladie mentale, c'est vraiment clair, elle a tous les symptômes. Mais je pense que peut-être que Latisse connaissait pas ces symptômes-là à ce moment-là. Il pouvait pas savoir que sa fille allait disparaître quelques jours plus tard non plus. Le mercredi 16 septembre, Latisse était couchée et elle a reçu plein de SMS insensés de la part de sa fille. Cette journée-là, Maitreese est allée travailler. Elle était assez contente, tout allait bien. Elle est retournée chez elle pour l'heure du dîner, comme elle faisait toujours. Et durant l'après-midi, elle n'est pas retournée au travail, mais elle était censée travailler cet après-midi-là. Mais là, vous vous rappelez, elle a dit « Ah oui, Dieu m'a ordonné de pas aller travailler, de prendre l'après-midi de congé. » Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris l'après-midi de congé. En janvier 2010, enfin, des recherches massives ont été organisées. Il y avait environ 300 personnes qui cherchaient. Il y avait 60 personnes qui étaient à dos de cheval. Il y avait des chiens, des hélicoptères. On était vraiment là, faut retrouver Maitreese. On fouillait vraiment les alentours de la station de police parce qu'on se disait, c'est sûr que c'est dans ce coin-là qu'elle est disparue. Malheureusement, Latisse, elle croyait vraiment que sa fille était déjà morte. Elle avait comme perdu espoir. Mais Michael, le père de Maitreese, lui, il gardait espoir. Lui, il pensait que sa fille était probablement tombée dans le monde de la prostitution. Il s'est même rendu à Las Vegas pour aller voir si sa fille travaillait pas comme prostituée. Ça aurait quand même du sens parce que, tu sais, bon, elle travaillait comme danseuse, elle est allée à la maison Playboy, tu sais, parfois dans ce monde-là, c'est pas toujours comme ça, mais c'est plus facile d'accéder à la prostitution si tu travailles déjà dans le monde du sexe, là. Malheureusement, durant ses recherches, on n'a pas retrouvé Maitreese. Ça s'est passé en janvier 2010. Là, je veux juste retourner dans le temps. En été 2009, les policiers de LA ont fait une descente dans le Dark Canyon, dans une ferme à potes, à marijuana, parce que quelques mois auparavant, il avait comme survolé cette ferme et il avait vu qu'il y avait plein de plants de potes. Ils ont saisi des milliers de plants de potes et les propriétaires n'étaient pas sur la ferme à ce moment-là. Ils étaient absents, mais ils ont comme saisi tout ce qu'il y avait sur la ferme. Fait que les propriétaires sont sûrement arrivés, ils ont dit « Ok, on s'est fait saisir, on revient plus ici. » Donc au mois d'août 2010, donc un an après la descente sur la ferme de potes, les policiers sont allés revérifier si les propriétaires de la ferme n'avaient pas comme recommencé leurs activités illégales. Ils sont allés voir si depuis leur descente, depuis qu'ils avaient tout saisi, il n'y avait rien qui avait recommencé. Ils étaient contents de voir que les activités criminelles n'avaient pas recommencé et il n'y avait plus vraiment grand-chose. Il y avait encore un peu d'équipement là, d'agriculture, mais les propriétaires s'étaient débarrassés de tout. Et bon, la ferme avait été abandonnée depuis plusieurs mois déjà. Mais là, en marchant dans la ferme, il y a un policier qui a remarqué un crâne abandonné. Il s'est approché, il a regardé et en dessous de plein de feuilles et des débris, c'est là qu'il a vu un corps en pleine décomposition. La police de Malibu a tout de suite été alertée et très vite, on a pu confirmer que c'était le corps de Maitreese Richardson.
A sad ending to a strange story that began nearly a year ago. Those skeletal remains found in Malibu Canyon earlier this week have been identified as Maitreese Richardson.
Elle a été retrouvée à moins de 6 km de la station de police Lost Hills, ceux qui l'ont libérée la nuit de sa disparition. Ce qui s'est passé suite à la découverte de son corps est vraiment bizarre. Normalement, quand tu découvres un corps, le coroner doit immédiatement aller sur les lieux pour prélever des échantillons de la terre, si on le retrouve dehors, pour prendre des photos, pour sécuriser la scène de crime. Tout doit être fait en une question d'heures, ça doit être fait super, super rapidement pour pas perdre aucun indice. Dans ce cas-ci, le coroner a été averti 3 heures après la découverte du corps, ce qui est vraiment inhabituel, ça suit pas du tout les règles du protocole. Donc après 3 heures, le coroner a été averti et il a été transporté à la station de police pour qu'on vienne le chercher, lui et son équipe, en hélicoptère. Et le rendu là, il a attendu 2 heures avant que l'hélicoptère arrive. On est rendu une question de 5 heures avant que le coroner puisse aller évaluer le corps. Pendant ce temps-là, le soleil commençait à se coucher, puis là, le coroner était là, « Ok, ça va sûrement aller à demain matin. » Mais pourquoi? Il doit avoir une bonne raison. Et quand le soleil se couche, je pense qu'il travaille plus dans ces moments-là parce que ça prend vraiment de la bonne lumière pour tout évaluer. Et dans le noir, là, c'est comme impossible de faire leur travail. Mais là, en attendant un peu comme des nouvelles, le coroner a été averti que l'hélicoptère s'en venait et que les policiers avaient déjà ramassé le corps de Maitreese. Ce qui est encore une fois totalement contre le protocole. Le coroner doit absolument aller sur les lieux parce qu'il y a tellement de trucs qu'il doit regarder, prendre des photos. Je pense que les policiers peuvent même pas toucher le corps avant que le coroner arrive. Mais là, il se fait dire, les policiers s'en viennent puis ils ont le corps de Maitreese. Ça n'a pas de sens. Le coroner a même dit qu'en 40 ans de service, il a jamais vu ça. La job des policiers, c'est de préserver la scène de crime pour que personne puisse la contaminer ou bouger le corps. En aucun cas, ils sont autorisés à bouger un corps. C'est vraiment du jamais vu. Donc, le coroner, il n'y avait aucune photo du corps, aucune photo des lieux. Il n'avait pas pris d'échantillon de la terre. Il ne savait pas la position du corps, comment il a été retrouvé. Tout ce qu'il avait pour faire son évaluation, c'était le corps en soi. Mais c'est très peu quand tu veux évaluer s'il s'agit d'un meurtre ou non. Ça te prend d'autres éléments pour en venir à une conclusion. Par contre, il y a des journalistes qui ont mis la main sur le rapport d'autopsie et aussi sur l'état du cadavre. Et ça nous a amené beaucoup de questions. Je vais vous le lire là parce que c'est beaucoup de détails et je suis comme fatiguée. On dirait que je déparle. Donc, sa jambe droite était complètement détachée du corps, donc il était genre à 2 mètres du cadavre. Le fémur était détaché de la chair, comme si on l'avait détaché, mais c'était pas une décomposition qui était naturelle. C'est comme si quelqu'un l'avait détaché comme ça. Apparemment, c'est assez normal de retrouver, par exemple, un bout de la jambe éloigné du corps parce que beaucoup, beaucoup de bêtes sauvages dans cette région. Mais étrangement, la jambe ne montrait pas d'indice comme de quoi qu'elle avait été touchée par des bêtes sauvages. Et normalement, c'est assez facile à déterminer. Mais là, on voyait qu'elle n'avait pas été touchée par aucun animal. Et il y a un habitant du coin qui dit que quelques années auparavant, il avait enterré un mouton. Et il a dit qu'en quelques jours seulement, les vautours et les coyotes étaient venus se nourrir là, de l'animal. et ils n'avaient rien laissé derrière eux, ou presque. Il dit même si les animaux ont laissé des petits bouts de chair, le microscopique, ben ensuite, les rats et les insectes vont venir le manger assez rapidement. Pour tout le monde, c'est assez bizarre d'avoir retrouvé encore de la chair sur le corps de Maitreese après avoir passé autant de temps morte à cet endroit-là, parce qu'il y a tellement d'animaux sauvages dans cette région-là. C'est une question de jours avant que des vautours, des animaux viennent s'emparer de la chair, viennent se nourrir. Et là, le corps était presque intact. C'est pourquoi qu'on dit, ok, c'est vraiment bizarre que le fémur ait été déplacé, mais qu'il y avait encore de la chair dessus, un animal l'aurait mangé. Aussi, apparemment, en bougeant le crâne, il était encore attaché au reste du corps. Et selon le coroner, c'est presque impossible, après un an que le crâne, mais la tête soit encore attachée au reste du corps, ça aurait dû se détacher comme naturellement. Sur le sol autour du corps, il y avait plusieurs cheveux qui s'étaient comme détachés du crâne de Maitreese. Mais on se demande si ces cheveux-là, c'était ses cheveux à elle et pourquoi ils étaient séparés du corps. Est-ce qu'ils avaient été coupés par quelqu'un? Ça aussi, c'est une question comme sans réponse. Mais si le coroner avait vu les lieux du crime, il aurait pu peut-être trouver une réponse à ça. Mais là, il n'a pas pu le faire. Ensuite, il y avait des œufs d'insectes sur le corps de Maitreese, mais ils n'ont jamais été analysés. Ça aurait pu nous aider à déterminer l'endroit de sa mort. Fait que tout est vraiment important dans ces moments-là. La terre et les feuilles mortes sur son corps auraient dû, elles aussi, être analysées pour voir s'il y avait du sang dessus, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. Donc, on n'a pas analysé les œufs d'insectes ni les feuilles. On n'a pas analysé son crâne pour savoir si elle avait eu une sorte de traumatisme crânien, ce qui aurait pu déterminer la cause de sa mort. On n'a jamais analysé ses poils pubiens non plus pour savoir s'il y avait des traces ADN externes, s'il n'y avait pas d'autres poils pubiens ou du sperme. Donc ça aurait pu nous aider à savoir si Maitreese avait été violée. Les dents de Maitreese étaient légèrement rosées, ce qui indique normalement une strangulation, mais le coroner n'a pas été capable de le déterminer à 100%. Donc, comme vous pouvez voir, l'enquête a été mal faite de A à Z. La police, elle dit, c'est presque impossible que Maitreese ait été victime d'un crime, donc ils pensent pas du tout à un meurtre. Eux, ils pensent qu'elle est probablement morte, mordue par un serpent à sonnette, ou peut-être qu'elle est morte empoisonnée par une sorte de plante vénéneuse. Mais dans les deux cas, c'est assez improbable et c'est pas si fréquent qu'on le pense, mourir empoisonnée d'un serpent à sonnette. Elle a été retrouvée nue. Puis on a retrouvé juste ses jeans, son soutien-gorge et sa ceinture, genre à côté du corps. Ça, on dit, ok, ouais, c'est peut-être les animaux qui ont déplacé ces vêtements-là. Mais je sais pas pour vous, mais des animaux, là, c'est quand même difficile pour eux d'enlever une ceinture, de déboutonner les jeans. Ses chaussures étaient où? Genre, est-ce qu'elle s'est enlevée les chaussures? Parce qu'il faut que t'enlèves des chaussures pour enlever des jeans serrés, là. Donc, comment ils ont fait les animaux pour y enlever les jeans? Pour aussi déboutonner une brassière, là, un soutien-gorge, c'est pas facile. Des animaux, je pense pas qu'ils soient capables. Comment on peut déterminer qu'il s'agit d'une mort comme naturelle ou empoisonnée ou... C'est sûr que c'est pas ça, là. Finalement, qu'en est-il des chaussures, des chaussettes et des t-shirts de Maitreese? Je pense pas que des animaux aient mangé ces vêtements-là et les aient avalés. Pourquoi on n'a jamais retrouvé ces morceaux de vêtements-là? Mais à aucun moment, les policiers ont voulu faire d'enquête pour homicide. Genre, pourquoi pas? C'est sûr que c'est ça. Moi, je pense que probablement que Maitreese a été kidnappée. Il y a quelqu'un qui l'a vu super vulnérable. Il a vu l'opportunité, il l'a enlevé, il l'a peut-être violé, il l'a tué et a juste jeté son corps à cet endroit-là. Les parents de Maitreese, Michael et Latisse, ont poursuivi le bureau du shérif pour la violation des droits de Maitreese parce qu'elle aurait dû bénéficier d'une évaluation psychiatrique, psychologique, la soirée de sa disparition. On a comme brimé ses droits et les policiers n'ont comme pas fait leur devoir en ne lui faisant pas cette évaluation. En 2010, la mère de Maitreese a demandé à ce qu'on exhume son corps pour une autre évaluation et qu'elle soit analysée par le FBI, mais le FBI malheureusement a dit qu'il pouvait pas aider cette situation-là. En 2011, il y a $1 million qui a été offert aux parents de Maitreese comme dédommagement. Tant mieux pour eux, là. Je suis vraiment contente qu'ils aient reçu un dédommagement, mais tu sais, ça remplace vraiment pas leur fille, là. T'sais, ça l'a comme pas clos le dossier du tout, mais au moins, je sais pas, au moins je suis comme contente qu'il ait reçu quelque chose, là. En 2016, on a réouvert l'enquête pour voir si Maitreese n'avait pas été victime d'un meurtre, mais malheureusement, on n'a pas trouvé de preuves assez solides pour entamer une poursuite. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette histoire. C'est une histoire assez longue. Est-ce qu'il s'agit d'un cover-up? Moi, personnellement, je pense pas que les policiers aient pu tuer Mike Trace. C'est possible. C'est possible. C'est sûr qu'ils sont responsables d'une manière ou d'une autre à cause de leur négligence. Je pense que oui, c'est peut-être une sorte de cover-up. Surtout qu'ils ont bougé le corps de Mike Trace. Ça l'a pris 2-3 heures avant qu'il appelle le coroner. Peut-être qu'il y avait des preuves à cacher. Probablement leur négligence, mais peut-être autre chose. Et c'est assez fou, le non-professionnalisme des policiers durant l'enquête, avant l'enquête, là, ça me jette à terre. Puis je sais que je parle beaucoup d'histoires où les policiers font un travail merdique, mais c'est pas toujours le cas, puis je veux vraiment pas généraliser. Écoutez, il y a tellement des policiers qui font du bon travail, puis c'est vrai qu'on dirait que je parle pas assez d'histoires pour montrer à quel point il y a vraiment des policiers compétents dans la vie, puis il y a des policiers qui veulent aider et qui prennent à cœur leur profession. Je sais qu'il y en a, puis on dirait que je raconte juste des histoires qui est tout le contraire, mais ça donne vraiment juste comme ça. Et je pense que c'est peut-être les histoires les plus médiatisées, ceux dont les policiers n'ont pas agi comme ils se devaient. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up et laissez-moi vos idées, opinions, commentaires, théories dans les commentaires de cette vidéo. Et sinon, si vous voulez m'aider un petit peu parce que je suis sûre à 100% que cette vidéo va être démonétisée, vous pouvez aller regarder quelques publicités pour moi sur YouTube. C'est toujours très apprécié. Je vais laisser le lien YouTube dans la barre d'infos. Et sinon, n'oubliez surtout pas de garder l'œil ouvert. Et honnêtement, c'est triste à dire, mais ne faites pas confiance à personne. Over and out.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.